L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Charlotte Mijon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication au réseau Sortir du nucléaire, le réseau qui alerte, informe sur le nucléaire.
Tout à fait. Le réseau Sortir du nucléaire, c'est une fédération d'associations qui a été créée il y a 20 ans. Ce sont des collectifs locaux, des associations, des individus aussi, partout en France, qui sont unis, on va dire, autour de cette même volonté d'une décision politique de sortie du nucléaire. Et pour mettre ça en œuvre, ben donc on a plusieurs. On est une équipe salariée qui compte une douzaine, quinzaine de personnes et qui essaye de décliner tout ça au quotidien pour à la fois informer, faire de la veille sur tout problème qui se passe, aider à la mobilisation, porter des recours en justice lorsqu'il y a des dysfonctionnements. Diffuser massivement de l'information et j'en passe.
Au réseau Sortir du nucléaire, vous avez trois raisons de vous opposer au nucléaire. C'est dangereux, c'est polluant et c'est cher.
Tout
alors,
à fait.
On va peut-être expliquer voilà, pourquoi c'est dangereux. Je crois qu'on le sait, on l'a vu. Hein.
Alors, je pense qu'il vaut mieux partir de pourquoi c'est polluant, même en l'absence d'accident. Polluant, il faut savoir que même en fonctionnement régulier, normal. Le nucléaire s'accompagne d'une part de la pollution des mines d'uranium pour donc extraire l'uranium qui est utilisé comme combustible dans les centrales. Les mines d'uranium, donc, il y en a au Niger, il y en a au Canada, au Kazakhstan, en Australie. Donc ce sont des activités qui sont extrêmement polluantes, qui peuvent contaminer les nappes phréatiques durablement, notamment au Niger, dans la région d'Arlit. C'est une nappe phréatique fossile, donc qui ne se renouvelle pas avec les pluies, qui est polluée durablement par les mines d'uranium d'Areva.
Donc c'est-à-dire certainement des populations autour qui boivent de l'eau irradiée quoi.
Qui boivent de l'eau irradiée, exactement, qui respirent des poussières contaminées. Un phénomène qu'on retrouve aussi beaucoup au Niger, c'est la réutilisation de ferrailles radioactives qui ont été utilisées dans la mine et qui se retrouvent sur les marchés transformées en biens de consommation. Et ça, c'est un énorme problème. Il y a un très gros problème sanitaire par rapport à ça. Il y a un très gros problème de mépris des populations concernées, surtout. Et donc, il faut bien savoir, quand on utilise du nucléaire, le prix, c'est ça. Et c'est ça dans tous les cas. Et il n'y a pas de technique d'extraction d'uranium propre. Ensuite, les centrales et les usines nucléaires, surtout, sont autorisées à émettre dans l'environnement de très grandes quantités de radioactivité. Je pense notamment à l'usine Orano de La Hague, donc anciennement Areva, dont les rejets se retrouvent dans tout l'Atlantique Nord et jusque sur les côtes norvégiennes, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une convention internationale. Et ça, c'est une pollution qui existe, qui a des incidences sanitaires. En Allemagne notamment, il y a des études qui ont été menées avec les centres universitaires qui ont mis en évidence le fait qu'il y avait une augmentation des fréquences des leucémies infantiles dans un rayon de 5 km autour des centrales. Donc, quoi qu'on fasse, il y a ces problèmes-là. Et ce n'est pas parce que ces rejets sont autorisés qu'ils n'ont aucun impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que les normes de rejet sont fixées non en raison de normes sanitaires, mais en raison d'un optimum économique. Et elles sont fixées volontairement très très haut pour que, quoi qu'il arrive, on soit toujours en dessous de la limite autorisée.
Et puis, comme sur le cas de Fukushima, les normes, on a vu qu'elles montaient, elles descendaient.
On peut jouer avec, on peut jouer avec. Et c'est malheureusement ce qui se prépare aussi au niveau européen, où on dit, en cas d'accident, on va rendre les normes encore plus flexibles.
Alors, et puis bien sûr, il y a la question
des déchets
radioactifs.
Il y a aussi bien donc tout ce qui est utilisé lors de la manutention, dans les différentes opérations de fonctionnement d'une centrale. Il y a les installations nucléaires elles-mêmes qui deviennent des déchets lorsqu'elles sont irradiées, donc à la fin de leur vie. Il y a bien sûr le combustible nucléaire, qui est celui qui concentre le plus de radioactivité. À l'heure actuelle, donc, ce combustible nucléaire est envoyé à La Hague pour y être, entre guillemets, retraité. Donc une opération qui est extrêmement polluante, qui est chère et qui en plus ne sert pas à grand-chose, qui avait surtout pour but non pas un recyclage en tant que tel, mais plutôt l'extraction de plutonium, qui est une substance qui n'existe pas dans la nature et qui peut servir à fabriquer des bombes. Notamment, et la France a accumulé des quantités considérables de plutonium, qui représente un risque très très important. Et d'ailleurs, un des autres problèmes justement liés au nucléaire civil, c'est que dès qu'on a des centrales, on fabrique des matériaux qui peuvent servir à fabriquer une bombe sale ou qui peuvent donc être utilisés avec des intentions malveillantes. Pour continuer sur les déchets, il y a bien sûr la question des déchets, il n'y a pas que le plutonium. Donc ce qui se passe lors du retraitement, c'est qu'on isole les différentes composantes du combustible usé, donc à la fois le plutonium, dont une partie est réutilisée pour des applications militaires, mais pas que, de l'uranium qui n'est plus suffisamment enrichi et qui est stocké, qui s'accumule sur différents sites, soi-disant qui est recyclable, sauf qu'il n'est pas recyclé dans les faits. On pourrait le réenrichir, mais ce serait une opération très très coûteuse. Et enfin, il y a une part très très réduite des déchets, mais qui concentre le maximum de la radioactivité et qui correspond plus ou moins à ce qui est rejeté dans l'atmosphère en cas d'accident nucléaire. Ces déchets-là sont conservés à La Hague, dans des conditions qui laissent à désirer d'ailleurs, et il est question de les enfouir à Bure, dans la Meuse.
D'accord, donc on en parlera tout à l'heure de Bure. Mais pour finir sur cet aspect polluant, on a entendu dire que l'intérêt du nucléaire, c'était l'indépendance énergétique de la France, ce qui est faux, parce qu'on n'a pas, pas l'uranium qui est nécessaire au début de la production. Et puis que c'était une énergie qui pourrait sauver le climat, parce qu'en fait, elle produisait moins de gaz à effet de serre que le charbon, par exemple. Alors ça, j'imagine que ça vous hérisse le poil
quand
vous entendez ça.
Alors ça, c'est le genre d'idées reçues qui circulent beaucoup et sont un peu les dernières branches auxquelles essaye de se raccrocher l'industrie nucléaire. Pour la question de l'indépendance énergétique, effectivement, la dernière mine d'uranium française a fermé en 2001. Et considérer que le nucléaire assure notre indépendance énergétique, c'est, si on regarde bien, être dans une approche totalement néocoloniale où on considère que le Niger, c'est chez nous.
Alors pourquoi on a fermé nos mines chez nous ?
C'était... Pourquoi on les a fermées ? Parce que peut-être pour des questions de rentabilité.
Pour pas polluer notre eau aussi ?
Peut-être aussi. Il y avait beaucoup de très petites mines qui ont vite été épuisées, d'ailleurs qui posent des problèmes de santé publique énormes parce qu'elles sont... on sait qu'elles sont là, elles continuent de polluer et il y a très très peu de choses qui sont faites pour bien les identifier et pour arriver à maîtriser leur pollution.
Alors il y a un autre aspect aussi qu'on oublie souvent, c'est la centralisation du mode de production énergétique qui fait qu'on a énormément de pertes de transport de l'énergie.
Tout à fait. Si on fait le compte, par exemple, l'utilisation du chauffage électrique, on se retrouve avec une centrale qui déjà, grosso modo, on peut dire, c'est une bouilloire. Voilà, on utilise donc le combustible nucléaire pour faire chauffer de l'eau, pour produire de la vapeur, qui va faire tourner des turbines qu'on convertit ensuite en électricité. Donc déjà, là, on a un rendement qui est d'un tiers seulement. Ensuite, donc, cette électricité, avec des pertes, effectivement, bon, c'est pas non plus si important que ça, mais il y en a quand même. Et ensuite, pour retransformer cette électricité en chaleur, là, on a un rendement qui est complètement mauvais. Mais juste pour revenir sur ce qu'on a soulevé tout à l'heure, sur effectivement l'argument du nucléaire soi-disant bon pour le climat, effectivement, c'est une idée reçue. Certes, si on se place dans la perspective entre une centrale de charbon actuellement en fonctionnement et une centrale nucléaire actuellement en fonctionnement, et qu'on se place juste dans la seule optique émission de CO2, à un instant T, sur le site, effectivement, la centrale nucléaire émet moins que la centrale au charbon. Mais, je veux dire, quand on parle de pollution, il faut quand même avoir une vision globale. C'est-à-dire, on ne peut pas déjà se focaliser sur le seul secteur émission de CO2. Il faut quand même rappeler que le nucléaire va de pair avec la production de déchets dont la dangerosité perdurera pendant un temps qui dépasse celui des civilisations humaines. Donc déjà, en tant que tel, escamoter cet aspect-là, c'est profondément malhonnête. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que le deal, il n'est pas seulement nucléaire ou charbon, c'est nucléaire ou économie d'énergie, nucléaire ou énergie renouvelable. Et donc, on a aussi d'autres technologies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, qui en émettent peu, qui sont beaucoup moins coûteuses, beaucoup moins polluantes.
Comme
les énergies renouvelables, tout simplement. Enfin, le plus efficace, c'est réfléchir aux économies d'énergie. Un programme d'isolation des bâtiments est infiniment plus efficace pour lutter contre le changement climatique. Il faut se poser la question. Pour un euro investi, qu'est-ce qui est le plus efficace? Et on se rend compte, finalement, pour un euro investi, ce sont les énergies renouvelables, les économies d'énergie qui sont les plus efficaces et qui sont aussi les plus rapides. Parce que finalement, on le voit avec l'EPR de Flamanville, construire une nouvelle centrale nucléaire, ça prend plus de 10 ans à l'heure actuelle en France. Construire un parc éolien, on sait faire. Les problèmes, les retards, ils sont principalement d'ordre administratif, mais ils ne sont pas du tout techniques. Rénover une maison, c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc le nucléaire est hors jeu par rapport à l'urgence climatique qui exige vraiment qu'on mette en œuvre des mesures de manière très forte et très urgente. Voire même le nucléaire est non seulement hors jeu, mais le nucléaire c'est un verrou. C'est-à-dire que le nucléaire va de pair avec une certaine organisation du système énergétique qui est dépassée. Et surtout le nucléaire... Là, actuellement, il n'y a plus de statu quo possible. On a des installations qui arrivent en fin de vie. Si on veut les maintenir avec un niveau de sûreté au moins équivalent, il va falloir mener d'énormes travaux qui vont coûter extrêmement cher. Et c'est autant d'investissements pour gagner quelques années de fonctionnement au mieux qui ne sont pas utilisés pour les énergies renouvelables, pour des programmes d'efficacité énergétique. Donc, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il n'y a plus de statu quo possible et il faut choisir les vraies options d'avenir.
Le nucléaire, c'est beaucoup plus cher qu'on nous l'a fait croire, notamment sur le fait que dans les calculs économiques qui ont été faits pendant très longtemps, on n'a pas pris en considération ce qu'on appelle le cycle de vie des centrales nucléaires, c'est-à-dire on ne s'est pas rendu compte de ce que ça allait coûter de démanteler ces centrales nucléaires.
Donc, tout à fait.
Aujourd'hui, on est effectivement sur un cycle de qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces centrales qui sont en fin de vie. On essaye de rallonger cette durée de vie... Donc il va rajouter encore un coût, mais si on prend en considération tous ces coûts, et sans parler en cas d'incident, parce que là on le voit au niveau du Japon, ça a été plus de 200 milliards d'euros après la catastrophe de Fukushima, donc vraiment c'est pas une énergie rentable. Et donc on le voit aussi sur un projet sur lequel vous travaillez beaucoup au réseau Sortir du nucléaire, c'est sur cette question de qu'est-ce qu'on fait de ces déchets nucléaires avec le projet à Bure d'un centre d'enfouissement, le projet CIGEO, le centre industriel de stockage géologique. Et là, c'est pareil, c'est des sommes colossales.
Tout à fait, avec d'énormes mensonges. C'est une constante dans l'industrie nucléaire, c'est le mensonge et l'absence de transparence sur le coût. Quand on parlait des coûts du nucléaire, effectivement, on n'a pas pensé l'aval. C'est comme si on avait construit un appartement sans toilette. C'est-à-dire, on ne pense pas à la gestion des déchets, on ne pense pas le démantèlement. On partait du principe que le démantèlement, ce sera 15% du prix de construction.
Comme dans une industrie ordinaire,
tout à fait, alors que ce n'est pas du tout ça. En France, on n'a pas démantelé encore une seule centrale. Et on se rend compte que c'est un casse-tête énorme. C'est un casse-tête énorme parce qu'il y a de très grands enjeux. Ce n'est pas juste un chantier de démolition, c'est un chantier de déconstruction avec des substances très dangereuses qui nécessitent des précautions très importantes pour les personnes qui vont s'en charger. Ou souvent, on n'a plus la mémoire de où les bâtiments sont les plus contaminés parce que cette mémoire-là, elle n'a pas été gardée. Et aussi la problématique de qu'est-ce qu'on fait des déchets issus du démantèlement, tout ce qu'on appelle les déchets activés, donc les ferrailles et les bétons qui n'étaient pas radioactifs à l'origine et qu'ils sont devenus.
D'accord. Alors, mais finalement, quelque part, Bure, c'est une meilleure solution que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'il paraît qu'on a quand même jeté des barils absolument pas isolés dans la mer du Nord et même dans l'Atlantique, à Cap-Breton, dans la fosse.
Alors, effectivement, on a fait n'importe quoi. On a jeté des barils de déchets en pleine mer. À mon avis, c'est pas impossible qu'on en ait aussi abandonné sur les côtes africaines. Ça, c'est sûr. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a fait n'importe quoi par le passé que dans le futur, on fait forcément mieux et on fait forcément plus responsable.
Alors, pourquoi Bure, c'est une mauvaise solution de se dire on va creuser un trou très profond et on va mettre ça pour des milliers d'années?
Peut-être en préambule, je veux préciser quelque chose, c'est que malheureusement, en ce qui concerne la gestion des déchets, il n'y aura pas de solution en tant que telle.
Mais il faut bien qu'on fasse quelque chose.
Oui, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on saura qu'il n'y aura que des options plus ou moins dangereuses. L'industrie nucléaire, je ne veux pas dire nous, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi de créer ces déchets, a produit des substances dont la dangerosité va dépasser le temps humain. Et là, pourquoi Bure, nous nous opposons à ça? Parce que déjà, sur le principe, l'enfouissement est une manière de mettre les déchets sous le tapis, dans tous les sens du terme. Et parce que c'est une option qui présente des risques très importants, un coût très important, et qui est imposée aux populations.
Typiquement, c'est la campagne. Les gens n'avaient pas cette capacité de mobilisation qu'il peut y avoir sur certains territoires. On a vraiment choisi quand même un territoire peut-être avec des caractéristiques géologiques en se disant c'est intéressant d'enfouir à cet endroit-là, mais c'était aussi certainement lié au fait que la population était peu nombreuse et peu politisée.
Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80-90, il y a eu une longue histoire de résistance à l'implantation de sites d'enfouissement de déchets radioactifs. Et si le projet CIGEO s'implante en Meuse, ce n'est pas tant pour les caractéristiques géologiques de son sol, c'est parce qu'on a 6 habitants au kilomètre carré. Et je me souviens des opposants historiques qui nous ont dit, dans les années 90, on avait fait une manifestation à la préfecture, et le préfet nous avait dit « Ah d'accord, bon, bah, écoutez, mettez-nous 10 000 personnes dans la rue, on en reparle ». Bar-le-Duc, la préfecture, je ne suis même pas sûre qu'il y ait 15 000 habitants. Donc c'est vraiment une question de territoire peu peuplé, déshérité, où des élus locaux ont vu surtout la possibilité de subventions à court terme, sachant que là, actuellement, c'est 30 millions d'euros par an et par département, donc pour la Meuse et la Haute-Marne, pour soutenir des projets dans le cadre de l'accompagnement économique.
Voilà, donc on a acheté finalement ces territoires un peu dépeuplés et pas très bien lotis au niveau du développement économique. Et il y a eu quand même une occupation de site par des militants, on peut dire une ZAD, hein, pour empêcher ce projet. Et récemment, on les a chassés, c'était le 22 février 2018.
Oui, alors, pour remettre un peu en contexte, l'opposition à Bure, elle est ancienne, elle date pas juste d'il y a quelques années. Il y a eu des mobilisations, il y a eu des manifestations, bon, on n'a pas réussi à réunir 10 000 personnes, mais... Et une action très pernicieuse du gouvernement, qui était de dire, on va d'abord faire un laboratoire, pour voir si on peut enfouir. Et c'est difficile de s'opposer à un laboratoire, parce qu'un laboratoire, ce n'est pas un site d'enfouissement, parce qu'un laboratoire, c'est de la recherche. Donc ça veut dire, ah, vous êtes contre la science, vous êtes contre la recherche, donc c'est difficile de s'opposer à ça. Sauf que c'était là une manière de mettre le pied dans la porte.
D'après Bastamag, le journal, il y a eu déjà 1 milliard d'euros qui ont été investis sur ce projet, notamment via ce laboratoire, mais de nombreuses études pour voir la faisabilité. Donc on peut dire qu'il y a eu déjà tellement d'argent mis sur la table que ça va certainement être difficile pour les politiques de faire marche arrière.
Mais disons qu'effectivement, on est dans une région où il y a des politiques qui, avec le désinvestissement de l'État, avec la déprise des services publics, avec la désindustrialisation, sont biberonnés à ces subventions-là. Et on a des élus qui sont ni pour ni contre CIGEO, mais surtout, ils veulent voir venir le développement économique promis et ils veulent des emplois. Et quand on regarde le montage financier de CIGEO, eh bien, ça fait peur. C'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment une vision de court terme, que peut-être chez certains, il y a l'idée de se dire oh, « bah, le projet, je sais pas, mais si ça peut faire fonctionner le BTP pendant 15 ans, c'est parfait ». Pour vous donner un exemple, là, on a porté en justice, il y a quelque temps, une action par rapport au coût de CIGEO. Il faut savoir qu'en 2013, il y a eu un débat public sur CIGEO, et lors de ce débat, la question des coûts était totalement occultée. Il y avait une estimation d'environ 16 milliards d'euros dont tout le monde savait qu'elle était obsolète, mais aucune estimation actualisée versée au débat. Or, l'ANDRA devait réaliser une telle estimation.
Donc l'ANDRA, c'est l'agence...
L'agence pour la gestion des déchets radioactifs. Et donc, quelques années après, on a fait une demande de documents administratifs pour obtenir cette fameuse estimation. Et on a vu donc un document qui fouillait quand même bien les choses et qui estimait le projet à 34,5 milliards d'euros.
Presque le double.
Voilà, presque le double, effectivement. Et donc, quelques semaines après, ce document-là a été rendu public, donc, et tout de suite, ça a alerté les producteurs de déchets, qui sont ceux qui doivent provisionner.
C'est eux qui doivent payer.
Qui doivent provisionner pour la gestion de leurs déchets, donc payer. Et eux, comme ils sont dans une situation financière très délicate...
C'est qui, alors ?
C'est EDF, c'est Areva, c'est le CEA. Eh bien, ils ont dit, ah, mais non, pas du tout, ça peut coûter 20 milliards d'euros. Et pour contenter tout le monde et essayer de ne pas alourdir les charges pour EDF... Ségolène Royal, qui était alors ministre de l'Environnement, a dessiné, on coupe la poire en deux, on dira ce sera 25 milliards. Et donc, ça veut dire, on part sur un projet qui pourrait coûter une somme très importante, et on sait en plus à quel point les coûts ont tendance à dériver pour de tels projets. Où on fixe un coût officiel qui est beaucoup moins important. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des réajustements de faits en fonction de ce coût qui va rendre ce projet encore plus dangereux, s'il se fait? Est-ce qu'on va demander aux contribuables de remettre la main à la poche? Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'en l'état actuel, si ce projet n'est pas remis en question, on se dirige vers le pire des scénarios possibles. C'est-à-dire que, finalement, si on regarde bien, au niveau du modèle économique, il est à peu près prévu ce qu'il faudra pour construire ce qu'on appelle la phase pilote, donc qui est la toute première phase du projet, donc quelques kilomètres de galerie, en gros, pour tester, démontrer que c'est possible. Et derrière, c'est beaucoup plus flou, alors qu'il va quand même falloir construire des centaines de kilomètres de galerie. Entre les provisions actuellement disponibles et les coûts de cette phase pilote, qui coûterait aux alentours de 6 milliards d'euros, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait se retrouver dans la configuration où le projet est commencé, donc construction extrêmement lourde avec des coûts qui dérivent, dont on s'aperçoit très vite que ça pose des problèmes de sûreté énormes. Et à ce moment-là, on aura absorbé toutes les provisions disponibles pour la gestion des déchets et on n'aura plus rien pour un plan B. Et ça, ce serait le pire des scénarios possibles. Et c'est aussi pour ça qu'on s'oppose à CIGEO et cette espèce de marche en avant de rouleau compresseur, de c'est ça ou rien et on n'a pas le choix parce que de toute façon, il faut penser à l'avenir. Parce qu'il y a une espèce d'argument d'autorité qui est employé pour imposer ce projet, alors même qu'il n'est absolument pas mûr, qu'il est dangereux, qu'il y a des garanties de sûreté qui sont inexistantes et qu'au niveau économique, c'est du grand n'importe quoi.
Alors on part pas de rien parce qu'il y a quand même eu d'autres projets hein, aux États-Unis, un centre d'enfouissement de déchets nucléaires qui a existé et qui a connu un incendie. Donc
tout
aujourd'hui on peut plus y accéder, on peut plus stocker parce qu'il faut voir le coût aussi de l'inactivité parce que là on prévoit des centaines de kilomètres de galeries pour stocker jusqu'à 85 000 mètres cubes de déchets radioactifs. Mm-hmm. Mais si ça dysfonctionne, on ne pourra pas stocker tout ça, donc ce sera vraiment
tout à fait
contre-productif.
Donc le site en question, donc c'est ce qu'on appelait le Waste Isolation Pilot Plant aux États-Unis, donc dans les Rocheuses. Effectivement, c'est un site qui, en 2014, a connu un incendie qui contenait des déchets qui étaient dits de faible activité à vie longue. À CIGEO, il est projeté d'enfouir des déchets dits de moyenne et haute activité à vie longue, donc encore plus dangereux. Et donc, incendie en profondeur, non maîtrisable. Là encore, on ne sait pas encore quel est l'état des déchets. On ne sait pas encore, il n'est pas possible d'y accéder. On ne sait pas s'il est possible de poursuivre le stockage pour les déchets existants. L'extérieur a été contaminé.
Il y a eu un autre projet en Suède, un projet qui finalement n'a pas vu le jour.
Alors, pour l'instant, c'est juste à l'étape projet, donc, qui a été retoqué par la Cour de justice environnementale. Mais il y a aussi d'autres exemples. En Allemagne, par exemple, on a enfoui pendant des décennies, des déchets dans une ancienne mine de sel à Asse, près de Hanovre. Mine de sel qui était prétendument complètement étanche. Sauf que très vite, il y a eu des infiltrations d'eau à hauteur de 12 mètres cubes d'eau par jour. Et donc là, on se retrouve avec 126 000 fûts de déchets qui baignent dans une saumure radioactive. Et il est question de retirer ces déchets, mais techniquement parlant, ça pose un défi énorme. Pour les mettre où ? Ce sont des questions très très lourdes. Et justement, c'est un enjeu par rapport à CIGEO. C'est-à-dire que dans la loi pour faire passer la pilule, on a dit « oui, alors ce sera un centre de stockage, mais réversible ». En laissant entendre que si ça se passe mal, on pourrait toujours revenir en arrière, on pourrait toujours venir rechercher les déchets. Or, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que la réversibilité, techniquement parlant, elle n'est absolument pas garantie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'autorité de sûreté nucléaire demande à l'ANDRA d'apporter des gages parce que la possibilité de retirer des déchets en cas d'accident, d'intervenir en cas d'accident, voire même de poursuivre le stockage en cas d'accident, n'est pas garantie. Yeah.
Charlotte Mijon au réseau Sortir du Nucléaire. Sur ce projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, il y a quand même une nouvelle consultation publique qui est la troisième sur la gestion des déchets nucléaires. Ça veut dire qu'on fait des consultations publiques pour essayer de faire accepter le projet à la population ?
Tout à fait. C'est consultation sur un projet qui est décidé, qui est imposé. C'est un pur outil de communication, c'est un pur outil d'acceptabilité sociale. Et là, personne n'en est dupe localement.
Et c'est une consultation publique au niveau national ?
Je crois, oui. Et surtout, il y a quelque chose de profondément infantilisant, en fait. De dire, on va faire de la pédagogie. Comme si on était des enfants qui n'avaient pas bien compris, il faut leur réexpliquer. Et c'est quelque chose qui est extrêmement méprisant envers les associations qui sont contre ce projet depuis très longtemps, le réseau Sortir du Nucléaire, mais aussi toute une série d'associations et de collectifs locaux dont certains sont actifs depuis 1994. Mmh. Et les arguments, on les a. Les problèmes économiques, les enjeux de sûreté, ça a déjà été dit et répété.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on est bien d'accord, il faudrait arrêter le nucléaire pour tout ce qu'on a dit, c'est trop dangereux, c'est trop polluant, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les déchets qu'on a actuellement, si c'est pas pour les enfouir ?
Ben, déjà, le premier enjeu, c'est de les sécuriser là où ils sont. C'est-à-dire que le projet CIGEO est aussi utilisé pour détourner l'attention des problèmes de sûreté qui existent actuellement à l'usine Areva de la Hague. Et là, c'est pas un enjeu de long terme, c'est un enjeu de court terme, ici et là, maintenant, tout de suite. Et donc ça devrait être la première urgence. Ensuite, arrêter le retraitement des déchets radioactifs qui finalement génèrent des déchets encore plus dangereux. Et dans tous les cas, nous ce qu'on demande, c'est dès qu'on aura une garantie qu'on arrête de produire ces déchets, qu'il y ait une réouverture de la discussion sur les modes de gestion de ces déchets. C'est-à-dire étudier les autres pistes, étudier par exemple la possibilité de faire décroître la radioactivité. On sait qu'il y a des recherches dessus. On ne sait pas à quel rythme ça peut avancer, si ça peut avancer, mais il faut continuer d'y travailler. Étudier l'entreposage en subsurface, donc à faible profondeur, de manière à pouvoir intervenir en cas de problème, ça devrait aussi être fait. Et disons qu'il y a des questions qui se posent sur le très long terme, mais il y a celles auxquelles il faut répondre dans l'ici et maintenant. Et ça devrait être la priorité, on va dire. Et l'urgence, elle est d'abord d'arrêter de produire ces déchets. Les déchets qui sont destinés à Bure, de toute façon, il faut encore qu'ils refroidissent pendant des dizaines d'années. Ils ne peuvent pas déjà partir là-bas. Donc, on n'a pas le couteau sous la gorge par rapport à ça. Il faut déjà arrêter la fuite en avant, se poser, réfléchir. Et après, effectivement, il n'y aura jamais de solution satisfaisante. Il pourrait y avoir que des options plus ou moins dangereuses, il y aura des choix à faire, il y aura sans doute des choix frustrants, difficiles. Mais en tout cas, on ne peut pas partir sur une fuite en avant comme ça, en se voilant la face. Avec CIGEO, finalement, c'est une fuite en avant dans une option qui n'est pas sûre, qui n'offre pas les garanties nécessaires et qui va absorber en quelques années tous les financements dont on dispose sans régler le problème. Et ce n'est pas parce que, à l'heure actuelle, c'est la seule option sur la table qu'il faut se précipiter sur cette seule option quand elle présente de gros problèmes.
Merci Charlotte Mijon, donc du réseau Sortir du Nucléaire. Merci.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.